VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, il est 5h30 en temps universel. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 12 décembre 2019 pour le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À la présentation, Nanit Talani
et Michel Joseph.
Tout de suite, les titres.
La CPI va ouvrir un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés de deux ex-chefs de milices centrafricains.
Les Algériens votent ce jeudi pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika.
En Angola, le fils de l'ex-président dénonce un procès politique.
Au Niger, 60 personnes sont mortes dans l'attaque d'un camp de l'armée dans l'ouest du pays.
Nous nous rendrons au Congo-Brazzaville à la rencontre des femmes qui dénoncent les rites dégradants du veuvage.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports.
Mais tout d'abord, le journal.
Après pratiquement 10 mois d'une contestation populaire massive et inédite, les Algériens sont appelés aujourd'hui aux urnes afin d'élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika dans une présidentielle perçue comme une manœuvre de survie du régime qu'il devrait largement bouder. Les bureaux de vote doivent ouvrir à 7h temps universel et fermer à 18h temps universel. Les 5 candidats sont tous perçus par la contestation comme des enfants du système. Le mouvement dénonce une mascarade électorale et exige plus que jamais la fin de ce système au pouvoir depuis l'indépendance en 1962 et le départ de tous ceux qui ont soutenu ou pris part aux 20 ans de présidence de M. Bouteflika, contraint à la démission en avril. Aucun des 5 candidats ne peut espérer être considéré comme légitime par les contestataires et le vote sera boycotté à une large échelle, prévoient des analystes.
Au Niger, l'attaque d'un camp de l'armée à Inates, dans l'ouest du pays, a fait plus de 60 morts. Ce camp avait déjà subi en juillet dernier une attaque. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'attaque a fait plus de 60 morts. Les terroristes ont pilonné le camp à l'aide d'obus et de mortiers. Les explosions des munitions et de carburant sont surtout à l'origine de ce bilan très lourd, a indiqué une source. Ce bilan est le plus lourd subi par l'armée nigérienne depuis le début des attaques djihadistes dans le pays en 2015. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a interrompu sa visite en Égypte pour rentrer à Niamey. Ce même camp d'Inates avait subi une attaque en juillet dernier où plusieurs soldats nigériens ont été tués. Mardi, le gouvernement a prorogé de 3 mois l'état d'urgence décrété depuis 2017 dans plusieurs départements. La région de Tawa et celle voisine de Tillabéri sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes menées par des djihadistes. Depuis octobre, il est interdit aux organisations humanitaires de se rendre dans certaines zones sans escorte militaire.
En accord avec son homologue nigérien Mamadou Issoufou, le président français Emmanuel Macron a annoncé le report au début de l'année 2020 d'un sommet avec les dirigeants des 5 pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, initialement prévu le 16 décembre. Cette rencontre sera un moment décisif dans la lutte contre le terrorisme. Elle doit avoir lieu à Pau, ville du sud-ouest de la France, où était basée la majorité des 13 soldats français décédés le 25 novembre dans un accident d'hélicoptère au Mali.
Le sommet nous permettra d'évoquer ensemble avec les autres chefs d'État du G5 Sahel notre stratégie commune de lutte contre les mouvements terroristes au Sahel, a écrit M. Macron. Il avait souligné qu'il attend d'eux qu'ils assument publiquement le fait que les soldats français sont au Sahel à la demande des pays concernés et non pas pour des visées néocoloniales. Faute de quoi, avait-il indiqué, il en tirerait toutes les conséquences.
La CPI a annoncé hier l'ouverture d'un procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés de deux ex-chefs de milices centrafricains, dont un ancien haut responsable du football africain. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Patrice Edouard Ngaïsonan, ancien ministre des Sports, et Alfred Yekatom, alias Rambo, sont accusés de crimes commis pendant la guerre civile entre 2013 et 2014 en Centrafrique. Les juges de la CPI ont confirmé partiellement les charges portées par la procureure Fatou Bensouda à l'encontre des deux hommes, renvoyant l'affaire en procès. Les magistrats ont estimé qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsonan sont responsables de crimes tels que le meurtre, le viol, la torture, le transfert forcé de population, la persécution et autres actes inhumains. Ils ont par contre refusé de confirmer les charges restantes qui, selon eux, ne sont pas étayées par des éléments de preuve sans donner plus de détails. Ngaï Sonan, 52 ans, a été arrêté en France en décembre 2018 avant d'être transféré à La Haye. Il était le président de la Fédération centrafricaine de football. Yekatom, 44 ans, a été remis à la CPI en novembre 2018. Ce député aurait, selon la Cour, commandé environ 3000 combattants anti-Balaka.
Le fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a dénoncé un règlement de compte politique et nié toute tentative de détournement de fonds mercredi, au troisième jour de son procès devant un tribunal de Luanda. Si je n'étais pas le fils de l'ancien président de la République, je ne serais pas ici pour être jugé par vous, a lancé José Filomenos dos Santos au juge João da Cruz Pitra, qui préside les débats du tribunal suprême. Ex-patron du fonds d'investissement souverain angolais, M. dos Santos, 41 ans, comparé avec trois autres prévenus pour détournement de fonds publics et blanchiment. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale angolaise vers un compte crédit suisse à Londres dans le cadre d'une fraude qui leur aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La mobilisation en France contre la réforme contestée des retraites qui paralyse les grandes villes du pays entre ce jeudi dans sa deuxième semaine et pourrait s'amplifier au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre, vivement critiqué par l'ensemble des syndicats. Fin des régimes spéciaux, âge d'équilibre à 64 ans, entrée dans le système à partir de la génération née en 1975, le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé mercredi le contenu du futur système universel de retraite par points, assurant que tout le monde serait gagnant avec cette réforme. Mais sitôt le plan dévoilé, la fronde syndicale s'est élargie. Il n'y a pas de quoi convaincre l'organisation réformatrice qui appelait donc ses adhérents à descendre dans la rue le 17 décembre lors de la prochaine grande mobilisation.
Démocrates et républicains ici aux États-Unis sont restés campés sur leur vision opposée hier soir au Congrès américain lors d'une étape décisive de la procédure de destitution qui pourrait mener à la mise en accusation historique de Donald Trump. La commission judiciaire de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, s'est réunie pour débattre les deux chefs d'accusation retenus contre Donald Trump dans l'affaire ukrainienne, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Pour les démocrates, Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant cet été à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de 2020. Il l'accuse aussi d'avoir fait pression sur Kiev en suspendant notamment à la même époque une aide militaire cruciale pour ce pays en conflit armé avec la Russie. Les républicains, eux, accusent les démocrates de chercher avec cette procédure bidon à se débarrasser d'un président qu'ils ne peuvent pas battre dans les urnes.
À quelques heures d'élection cruciale pour le Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson et son adversaire travailliste Jeremy Corbyn ont joué mercredi leur dernière carte pour remporter un scrutin qui s'annonce très serré selon les derniers sondages. Le point avec Jean-Roger Bion.
Boris Johnson a convoqué ces élections avec l'espoir d'obtenir une majorité absolue, lui permettant de tourner définitivement la page du Brexit qui divise profondément son pays depuis le référendum de 2016. Arrivé au pouvoir fin juillet, avec la promesse de sortir son pays de l'Union européenne, l'ancien maire de Londres a essayé de rallier les régions traditionnellement acquises au travaillisme qui sont favorables au Brexit. Son adversaire Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste, l'a accusé de faire des promesses qui se transforment en mirage le lendemain. À en croire le dernier sondage de la campagne publié par l'Institut YouGov, le parti conservateur serait en tête des intentions de vote avec 339 sièges sur 650. Selon l'Institut, un tel résultat serait la meilleure performance des conservateurs depuis 1987 sous Margaret Thatcher. Mais la marge d'erreur, l'impact d'un éventuel vote utile et la récente tendance en faveur du Labour Party peuvent encore conduire à un Parlement sans majorité, donc une prolongation de la crise.
C'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques avec Irénée Herman-Umbo.
L'Éthiopie obtient un accord de principe du FMI pour un financement triennal de 2,9 milliards de dollars. Les deux parties se sont entendues sur un accord de principe pour la mise en œuvre d'un programme de réforme étalé sur 3 ans. En Tunisie, le Parlement vient d'adopter la loi de finances pour l'année 2020. Elle table sur un budget à 47,227 milliards de dinars, soit 16,5 milliards de dollars, avec une reprise de la croissance à 2,7% en hausse par rapport à la prévision de 1,4% pour l'année en cours. L'État malgache prévoit d'augmenter les redevances sur le nickel, le cobalt, les métaux précieux et les pierres précieuses, les faisant passer de 2% à 4%. C'est ce que rapporte Reuters, qui cite un projet de loi qui propose aussi une participation de l'État d'au moins 20% dans tout projet minier en production et commercialisable. Selon l'agence Ecofin, le Fonds pour l'adaptation vient de lancer un nouveau programme pilote d'innovation d'une valeur de 10 millions de dollars lors de la COP25. Ce nouveau programme a pour ambition d'accélérer l'innovation au profit de l'adaptation dans les pays en voie de développement.
À présent, la page sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Le tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2022 aura lieu en janvier 2020.
Oui, la FIFA a dévoilé les dates des tirages au sort de la phase de groupe des éliminatoires en Amérique du Sud et en Afrique. Sur le continent, la cérémonie aura lieu le 21 janvier prochain au Caire en Égypte. Donc, le tirage concernera 40 pays dont les 14 qualifiés du tour préliminaire. Le classement de décembre servira de repère pour composer les 10 groupes de 4. Ce second tour des qualifications débute en mars 2020 pour prendre fin en octobre 2021. À l'issue de cette phase, les 10 premiers de chaque groupe se qualifient pour le troisième tour. À cette étape, des barrages auront lieu entre les 10 équipes pour délivrer les 5 billets pour le Qatar. La phase finale de la Coupe du Monde 2022 aura lieu du 21 novembre au 18 décembre.
Amani Yao est le nouvel entraîneur du FC San Pedro.
Oui, l'ancien international ivoirien remplace à ce poste Gianni Tarek, absent sur le banc le week-end écoulé contre Enimba Aba au Nigeria. Le FC San Pedro, vainqueur de la Coupe nationale, s'est séparé de son entraîneur tunisien. Amani Yao a déjà entraîné des clubs ivoiriens comme la Lonassi, la FAD, l'AS Tanda et l'ASEC Mimosa. Il a pour objectif de redresser la barre en Coupe CAF où le FC San Pedro a enregistré un match nul et une défaite lors de ses deux premières sorties. Amani Yao devra aussi remporter le championnat ivoirien.
Gennaro Gattuso remplace Carlo Ancelotti à la tête du Napoli.
Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur de Naples au lendemain de l'annonce de la mise à l'écart de Carlo Ancelotti. Le champion du monde 2006 remplace ainsi Ancelotti, dont il est un ami proche et qui a été son entraîneur à l'AC Milan. Carletto a été démis de ses fonctions mardi après une victoire face à Genk en Ligue des Champions 4-0. S'il est parvenu à qualifier son équipe pour les huitièmes de finale, Ancelotti paie en revanche un début de championnat raté en Serie A, sanctionné par une piètre 7e place à 8 points du top 4.
Yacouba, on n'oublie pas ce soir la Ligue Europa.
19 équipes se disputent les 11 billets qualificatifs restants pour les 16e de finale lors de la 6e et dernière journée. Dans le groupe F, les Gunners d'Arsenal se déplacent sur la pelouse du Standard de Liège et Francfort reçoit le Vitória Guimarães. Dans le groupe B, le Dynamo Kiev doit s'imposer contre le FC Lugano pour espérer devancer le FC Copenhague ou Malmö qui s'affrontent au Danemark. Getafe et Krasnodar dans le groupe C vont se départager directement. Rennes reçoit la Lazio de Rome. Dans le groupe G, celui du FC Porto, les 4 équipes peuvent encore décrocher leur ticket. Enfin, Mönchengladbach, qui reçoit le Başakşehir Istanbul, sera qualifié avec une victoire ou un match nul et peut se permettre de perdre si la Roma s'incline aussi contre les Autrichiens de Wolfsburg.
Concernant la NBA, Houston Cleveland 116-110, Boston Indiana 117-122, Lakers de Los Angeles et Orlando 96-87, le Clippers de Los Angeles et Toronto 112-92, Charlotte Brooklyn 113-108, Chicago Atlanta 136-102, Utah Minnesota 127-116, Memphis et Phoenix 115-108. Il nous reste les résultats des matchs entre Oklahoma, Sacramento et puis New York Golden State.
Ha 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 ha! Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours en votre compagnie, Nanit Talani, voici le moment de nous consacrer à nos dossiers du jour. L'armée nigérienne dans la zone d'Inates, dans l'ouest, près de la frontière du Mali, a été une nouvelle fois la cible d'une attaque djihadiste. Cette attaque de mardi est la deuxième en deux jours contre des positions de l'armée nigérienne. Pour en parler, Eric Manerakiza a joint à Niamey le directeur d'information de l'événement, Moussa Aksar.
Les assaillants ont pris soin, et selon nos sources, et de couper toute communication de la base avant de l'attaquer sur trois positions. Et malheureusement, ça s'est soldé par la mort de plusieurs soldats nigériens et plusieurs portiers disparus. Le président Issoufou, qui est en déplacement en Égypte, aurait écourté sa visite pour... Il sera à Niamey d'un instant à l'autre et nous attendons vraiment le bilan officiel de cette attaque qui vient encore endeuiller les populations nigériennes.
Pourquoi justement ce camp est visé régulièrement?
C'est un camp qui se situe non loin de la frontière malienne. Il se trouve qu'entre ce camp, entre les positions de l'armée nigérienne et les positions de l'armée malienne, c'est un no-man's land entre le Mali et le Niger. Et c'est la zone de prédilection des groupes armés qui peuvent venir attaquer nos positions et repartir tranquillement au Mali où ils trouvent un terrain qui leur est favorable. Donc c'est cette situation qui fait que nous, chaque fois au Niger, nous recevons le secours de ces terroristes qui viennent attaquer nos positions et aller se réfugier au Mali. Si vous vous rappelez, le 1er juillet 2019, il y a eu aussi une attaque de cette position d'Inates par des groupes terroristes qui venaient du Mali.
Si des djihadistes ont réussi à couper les moyens de communication des militaires avant de les attaquer, c'est qu'ils disposent de moyens importants et efficaces.
Pour l'instant, on peut parler des failles dans un système, puisque si vous vous rappelez, il y a eu une attaque le 1er juillet 2019. Aujourd'hui, ils viennent encore attaquer avec des moyens colossaux. On peut dire que le système de renseignement a failli parce que, comme vous le savez, il fallait mettre un dispositif important depuis cette attaque, un dispositif de renseignement important. Est-ce que les autorités nigériennes ont mis ce dispositif important? Est-ce pourquoi il n'y a pas eu de communication entre certaines unités? Ça, je ne saurais vous le dire. Là, on attend d'abord le bilan, on attend les explications du gouvernement qui va se prononcer ensuite. Pour l'instant, c'est à chaud, on n'a pas les informations. Les premières unités qui sont parties rejoindre ce camp ce matin, ils ont constaté vraiment le désastre. Nous attendons vraiment le retour de certaines informations.
Est-ce qu'on peut dire que les djihadistes sont bien informés sur les failles au sein de l'armée nigérienne?
Mais les djihadistes sont informés parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a apparemment des failles dans le système de renseignement. Mais aussi, il y a les djihadistes bénéficient de certaines complicités au sein des populations, il faut le dire. Populations qui sont le long de la frontière où les gens s'adonnent à des trafics de tout genre, notamment de drogue. Ils trouvent que le premier ennemi est l'État.
Le directeur de l'information de l'événement à Niamey, Moussa Aksar, joint par Eric Manerakiza.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Gabon, l'attribution des marchés publics est au cœur de la lutte contre la corruption. Plusieurs projets d'investissement sont laissés à l'abandon à cause de contrats mal ficelés. La route nationale du Gabon en fait les frais. Sur les traces de ce tronçon de tous les dangers, le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Nous sommes au kilomètre 80 de Libreville. La principale voie de sortie et d'entrée de la capitale gabonaise est parsemée d'embûches et non des moindres. Des bourbiers géants sont formés le long du trajet depuis le retour de la saison des pluies. Les colonnes de véhicules sont prises au piège. La colère gronde au sein des transporteurs et autres voyageurs.
On est coincé entre le 80 et Kango. Même vous voyez, pour que les véhicules sortent, il faut qu'un engin puisse les tirer.
2h du matin, je suis bloqué. Après, les Gabonais parlent qu'ils ont les routes chez eux. Hein? Quelle honte! Quelle honte! Vraiment? Oh, il y a la route. Voilà, ça, depuis 2h du matin. Je sais qu'il y a Yaoundé. Il y a le goudron là-bas, mais ici, là, il y a Bourbé.
Le gouvernement, dans une récente déclaration, a indiqué que la situation actuelle de la route nationale du Gabon est liée à l'abandon des chantiers par plusieurs sociétés dont les contrats ont été mal ficelés par les administrations, et d'ajouter que certains responsables ont été mis entre les mains de la justice. En attendant la lumière sur ces enquêtes anticorruption, c'est la désolation en zone rurale. Georges Bolingui, notable du village Ayémé, situé à une centaine de kilomètres de Libreville.
Dans la sous-région, le Gabon est le pays le plus riche. Mais malheureusement, quand nous regardons nos routes, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Je promets au ministre des Travaux publics de l'argent pour réhabiliter la voie. On prend cet argent, on envoie les enfants d'Europe, on fait n'importe quoi. Mais alors, le Gabon, comment voulez-vous que le Gabon puisse avancer? Le Gabon ne peut pas avancer dans de telles conditions.
Alors que le pays, toujours dépendant des importations alimentaires, redoute une pénurie sur les marchés, une mission du ministère de l'Équipement vient d'inspecter le tronçon de tous les dangers, annonçant des mesures urgentes. Flore Chantal Ngono, directrice générale adjointe de l'entretien routier.
Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de bloquer la circulation, surtout au niveau des grands porteurs, pour 2 jours. Nous avons aménagé une déviation qui permettra aux petits véhicules de contourner le bourbier et nous laisser vraiment la possibilité de travailler.
Pour compenser l'usure des routes, les autorités envisagent une redevance que devront payer les transporteurs de grumes, en partie responsables, selon elles, de ce désastre. Ismaël Obianzé, de retour du village Ayémé, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la journée internationale de lutte contre la corruption a été célébrée ce 9 décembre. Selon Transparency International, la corruption fait perdre à l'Afrique le quart de son PIB, devenant le continent qui souffre le plus de ce fléau. Les mécanismes anticorruption sont-ils efficaces? Les populations jouent-elles leur rôle pour combattre le mal? Comment les institutions financières internationales peuvent-elles aider les gouvernements dans la traçabilité des fonds volés? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
En République du Congo, les femmes se plaignent du mauvais traitement dont elles sont victimes pendant les rites de veuvage. Elles estiment que leur dignité est souvent bafouée et demandent que les autorités mettent fin à cette pratique en interdisant ces pratiques et dans le prochain code de la famille. Correspondance à Brazzaville d'Arsène Séverin.
Les pleurs pendant le décès de l'époux ne symbolisent pas seulement la douleur de la veuve, mais également et surtout la crainte de vivre le pire moment de sa vie. Le veuvage, un ensemble de rites et de dures épreuves que redoute la femme congolaise. Veuve Anne-Marie Paul Bakan.
On barricade l'autre là à la chambre. Tu peux pas te laver, tu peux pas manger à l'heure où tu as faim. Et puis pour l'inhumation de ton mari, on te demande 400 000, 1 500 000, 2 000 même. Surtout si tu travailles. Vraiment, c'est malheureux. Oui, on dénonce ça. Mais c'est la famille, la belle famille qui prend cette décision. Parce que là maintenant, le mari est mort.
Très souvent, après le deuil du conjoint, la femme est mise dehors avec ses enfants. Une double douleur que dénonce la veuve Berthe Makita.
On te met dehors avec les enfants, alors qu'est-ce qui va devenir cette famille-là? Dans la rue, c'est pourquoi les enfants qui sont délaissés, on les retrouve dans les rues, ils deviennent des barbares, des bandits, des voleurs, des braqueurs, des bébés noirs.
Ces épreuves relevant de la tradition sont malheureusement appliquées avec vigueur par les femmes contre les femmes. Veuve Madeleine Miankaba.
Oui, par les femmes, mais nous serons là à conscientiser les femmes, surtout nous et les autres aussi qui viennent, nos filles aussi, qui seront plus tard aussi de veuves, elles aussi. Donc on sera là pour les conscientiser, pour arrêter tout ça.
Pourquoi, dans une société moderne comme le Congo, le poids de la tradition contraint encore les femmes à vivre un cauchemar qui remonterait des années 50? Professeur Auguste Miabeto, spécialiste des langues et traditions congolaises à l'Université Marie Ngouabi de Brazzaville.
Il y a une décantation des traditions qui doit se faire. Il y a des choses du passé qu'on ne peut plus récupérer aujourd'hui. Les valeurs vivantes peuvent demeurer, mais les antivaleurs, il faut les écarter. Les antivaleurs font très mal à la veuve. Il y a des traditions féminines qui sont là. La veuve qui est enfermée et qui est agressée par les belles-sœurs. Les hommes sont dehors et ils n'y sont pour rien. Bon, mais il faut éduquer la femme.
Pour aider les femmes à faire entendre leur voix, Le QDOC, une ONG des droits de l'homme, a initié une démarche envers les autorités pour que le futur code de la famille abolisse clairement ces traitements inhumains et dégradants. Gaspard Mianantima, président du QDOC.
L'objectif visé, c'est de permettre à la veuve, un, qu'elle connaisse ses droits et qu'elle sache les défendre. Deuxièmement, elle doit s'investir à sortir la veuve congolaise de ce que nous appelons esclavage.
En attendant, les pleurs qui s'élèvent dans les veillées mortuaires au Congo traduiront toujours l'amertume d'une veuve maltraitée par sa belle famille. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La région du Sahel en Afrique émet beaucoup moins de gaz à effet de serre comparé à des pays comme les États-Unis et la Chine. Mais avec des températures dans la région qui augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale, le Sahel subit de plein fouet les effets du changement climatique. Le lac Wenya au Mali, qui fournit de la nourriture et de l'eau à des milliers d'habitants, se rétrécit en raison de la montée de la chaleur et d'une pluviométrie imprévisible. Les explications de Mariama Diallo avec le récit d'Abdourahmane Dia.
Pendant des générations, la pêche sur le lac Wenya au Mali a été une source de vie et de revenus pour Modeste Traoré. Il avait espéré passer le flambeau à certains de ses enfants, mais son rêve est menacé par la hausse des températures et l'évaporation de l'eau sur le lac.
Si ça continue, je ne pense pas que nos enfants puissent devenir pêcheurs. Mais nous essayons de nous assurer que l'eau du lac ne disparaisse pas complètement.
Les précipitations imprévisibles et l'érosion ont également exercé une pression énorme sur les communautés.
Le problème est que le lac rétrécit et que l'eau ne reste pas assez longtemps comme avant. Elle devient complètement sèche à un moment de l'année, ce qui nous inquiète beaucoup.
Au cours des 20 dernières années, le lac a tari à plus de 80% pendant la saison sèche, selon Caritas Suisse, une ONG qui mène un projet environnemental dans la région. Le coordonnateur local Moussa Savadogo affirme que l'amélioration des pratiques agricoles et la gestion de l'eau sont cruciales.
Au moment de la décrue, les communautés descendent dans le lit du lac pour faire des périmètres maraîchers. Et au moment de la crue, tout le monde sort de ce lac en laissant les débris, les haies vives, les haies mortes dans le lac.
Et ce n'est pas tout.
Les insuffisances pluviométriques, plus les attitudes, le comportement des communautés, s'ils ne changent pas, vraiment dans 5 ans, le lac risquera de disparaître.
Savadogo affirme que les habitants prennent des mesures pour préserver le lac. Ils ont planté 56 000 arbres pour reconstituer la forêt et maintenir leur source de vie. Il insiste sur l'importance de ce lac pour les gens qui y vivent.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même
pour toi.